L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Piazza dell'Olio, en plein centre de la magnifique cité florentine. En ce début de matinée, l'église San Salvatore al Vescovo, blottie contre le palais de l'archevêque de Florence, est une héroïne particulière. Une foule endimanchée se presse dans sa nef, prenant place bruyamment sur ses bancs. Aujourd'hui, des jeunes gens se marient. Drôle de dichotomie que ce bonheur simple qui s'exprime alors qu'au dehors, le souffle de la guerre se fait sentir. La vie suit son cours. Voilà le message porté par cette union. Et la petite histoire, qui bien souvent fait la grande, s'est montrée une résistance admirable face aux affres de l'existence. Du haut de ses 70 ans qui approchent, le cardinal Elia Dalla Costa accueille les familles des mariés avec une bienveillance aussi sincère que réconfortante. Faut se dépêcher. Faire la fête n'est permis qu'à de très rares occasions ces temps-ci. Le futur marié l'a bien compris. Son entrée au bras de sa mère est sans fioriture. Il marche d'un pas pressé. Faut dire que le gaillard est plus habitué à tracer la route qu'à prendre son temps. Son nom ? Gino Bartali, l'un des plus grands champions cyclistes de l'histoire. Aujourd'hui, plus encore que l'amour, il s'apprête à embrasser la cause de toute une vie, celle de la justice et de la liberté. Nous sommes le 14 novembre 1940. Il est un peu plus de 10 heures et c'est l'heure H de mon histoire. Les travées de l'édifice religieux ne sont pas tellement impressionnés par la star du cyclisme mondial, mais bien plus pour sa fiancée. Elle s'avance, repoussant la noirceur du temps grâce à une magnifique robe aux motifs brodés et aux longs voiles immaculés. Gino n'a pas mis son uniforme de l'armée, non. Depuis toujours, le fascisme et tout ce qu'il peut représenter le répugne. Il n'en est pas moins un des héros du régime mussolinien, lui le grand vainqueur du Tour de France 1938. Bien malgré lui, Bartali est devenu le symbole d'une cause et d'une idéologie pour laquelle son aversion n'a d'égal que son mépris. Le cardinal semble regarder tout ça de loin. Stoïque, l'ecclésiastique a toute la figure impénétrable dans ses habits sacerdotaux. Derrière l'autel de la petite église florentine, le messager de Dieu renvoie une image d'intemporalité. La cérémonie est aussi brève que classique. Les jeunes tourtereaux n'ont qu'une envie, s'échapper, se soustraire à leur famille et à cette période incertaine. Autour d'eux, le monde entier s'embrase une nouvelle fois. Au printemps, malgré sa réputation de meilleure armée du monde, la France s'est effondrée comme un château de cartes. Hitler a lancé ses panzers à la vitesse de l'éclair dans les Ardennes. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, les chevaux et les bottes allemandes battaient glorieusement le pavé sur les Champs-Élysées. Oh, ailleurs, la situation n'est guère plus enviable. La Pologne est déchirée par le joug nazi et celui non moins terrible de Staline. L'Angleterre, vaillante, est bien seule, dans une lutte qu'elle a manqué d'abandonner pour préserver son intégrité. À sa tête, un certain Churchill n'a de cesse d'organiser la résistance. L'oncle Sam refuse de se porter à son secours. Pas d'entrée en guerre pour Roosevelt. Cette affaire est celle des Européens. C'est pas la sienne. Enfin, pas encore. L'humanité n'est déjà plus qu'un concept lointain. Et la foi, si chère à Gino, est un souvenir dilapidé dans les limbes. Les églises sont vides le dimanche. L'espoir n'est plus. Et lorsqu'il émerge quelque part, les milices fascistes se chargent de l'écraser de leur implacable talon. Souvent, Gino repense à cette funeste journée du 29 octobre 1922, celle où le roi d'Italie, ce traître de Victor Emmanuel III, a nommé Benito Mussolini comme président du Conseil. Dès lors, la poigne de fer du Duce s'était refermé sur la botte. Le cycliste et son petit frère, Giulio, ont vite compris la dangerosité de ce qui venait. Aujourd'hui, son cadet, l'amour de sa vie, n'est plus là. Le sportif se trouve bien seul pour comprendre ce qui alimente la folie des hommes. Avant de sortir de l'église et de monter dans la voiture qui doit les conduire à la gare, lui et sa femme, Gino, s'agenouillent. Il prie une dernière fois avant son grand départ. Soudain, alors que les travées se sont vidées et qu'il pense être seul face au Christ qui le contemple d'un regard plein d'espoir, le coureur sent se poser sur son épaule une main qu'il connaît bien. C'est celle du cardinal. Le vieil homme, en douceur, en chuchotant, l'invite à le rejoindre dans la sacristie. « Gino, Gino, j'ai à te parler, alors viens. » Dans la vie, les deux hommes sont amis. En société, cependant, mieux vaut ne pas trop montrer ses liens par les temps qui courent. Les espions sont légion, et la milice volontaire pour la sécurité nationale traîne ses guêtres et ses chemises noires partout où elle peut. De ce fléau, même la belle et intemporelle Florence ne peut se prémunir. Il n'y a bien que dans l'étroite sacristie que le duo peut échanger quelques mots en toute sécurité. La voix du cardinal est pourtant à peine plus perceptible que dans l'allée. Gino, les nouvelles sont mauvaises. Partout, on raconte que les fascistes et les nazis préparent quelque chose de terrible. Mais j'en sais pas plus pour le moment. Mes sources se font rares, et plus silencieuses surtout. Le jeune sportif ne répond rien. Il écoute, religieusement. Ce soir, il part en voyage de noces à Rome. En apprenant sa venue, le Vatican a insisté pour qu'il y rencontre le souverain pontife, Pie XII. Ah, voilà peut-être une piste qu'il s'empresse de communiquer au cardinal. Je dois voir le pape, en entrevue privée dans quelques jours. Je dois lui glisser un mot à ce sujet. En un instant, son interlocuteur se raidit et l'empoigne fermement. Non, Gino, non! On doit se méfier de tout le monde. Ce que je peux entendre sur sa sainteté ne me dit rien qui vaille. Il vaut mieux garder nos distances. Elia Dalla Costa n'a pas le temps d'achever sa phrase qu'un bruit sourd met les deux hommes en alerte. Les chemises noires, ici, que faire? S'échapper? Il n'y a pas d'issue. Le cardinal a le temps de glisser ses derniers mots au cycliste. Allez, file, et méfie-toi de tous ceux que tu pouvais considérer comme des amis hier. Gino quitte la sacristie et regagne la nef, la peur au creux du ventre. Pas de milicien à l'horizon, il n'y a que sa femme qui est un peu courroucée. C'est malencontreusement cogné contre un banc. « Ah, tu viens mon chéri? La voiture nous attend !» Une fois encore, Gino Bartali se retrouve confronté à la dichotomie de son époque. Dans ces années troublées, l'un des plus grands champions du cyclisme mondial va être embarqué dans une aventure au cœur de laquelle il pourrait bien tout perdre. La liberté, et plus encore, la vie. Nous sommes quelques années plus tôt, le 14 juin 1936. L'Europe déjà est en train de bouillonner. En Allemagne, Hitler ne cesse de repousser les limites. L'année dernière, la Sarre a été réintégrée au territoire après un plébiscite. Plus encore, il y a quelques mois, l'homme à la moustache s'est décidé à remilitariser la Rhénanie, en violation totale du traité de Versailles. Les tensions qui s'accroissent partout permettent d'anticiper les jours sombres. Au cœur de l'Italie fasciste, Mussolini a aussi posé les jalons d'un régime autoritaire. Le Parti national fasciste a fusionné avec l'État, alors que ce qu'on appelle le Grand Conseil du fascisme a pris le pouvoir sur le Parlement. Dans la botte, la démocratie est morte et enterrée. La propagande intense au plus haut niveau valorise le culte du chef. La famille Bartali en est exaspérée. Son aversion pour le régime en place est totale. Pourtant, voilà que le clan Bartali se retrouve sous le feu des projecteurs. En cause, l'éclosion de Gino dans le peloton des cyclistes de la botte. L'année dernière, il a remporté le championnat italien sur route et obtenu le Grand Prix de la montagne dans le Tour d'Italie. Ah, c'est pas rien. Il s'est même payé le luxe d'arracher la troisième place du célèbre Tour de Lombardie et la quatrième place du Milan-San Remo. À tout juste, 21 ans. Le jeune homme est devenu le porteur de nombreux espoirs. Et le Duce est persuadé d'avoir trouvé un formidable porte-étendard. S'il savait. Enfin, quoi qu'il en soit, Gino a même été adoubé par Learco Guerra, légende qui avait remporté les 5 précédents championnats nationaux. L'aîné du peloton est si impressionné qu'il a convaincu Bartali de le rejoindre dans son équipe. Et même mieux, il lui a promis la place de leader. Pas mal tout de même pour un petit nouveau. Les portes qui s'ouvrent laissent présager un avenir radieux. Il y a quelques jours, il vient de remporter son tout premier Giro, au prix d'une lutte de haute volée avec ses rivaux. De quoi donner des idées et de la motivation à son petit frère, Giulio. Le cadet de la fratrie, bourré de potentiel. Il est en train de faire parler de lui dans le monde amateur. Gino est autant son frangin que son coach. Il lui donne tous ses petits trucs pour réussir. Et aujourd'hui, le voilà en lice pour la victoire, dans une course régionale qui peut lui permettre de se faire remarquer par les écuries professionnelles. Autour de Florence, la pluie qui tombe est diluvienne. Prochaine étape, la montagne du San Donato. Mais avant cela, se dresse devant les gladiateurs de la route une descente terrible, extrême même. Les conditions rendent le bitume glissant. Les coureurs doivent redoubler de vigilance. Les freins de leur bécane sont on ne peut plus capricieux lorsque les flaques se multiplient sur leur parcours. Alors qu'il descend à toute vitesse, Giulio repense au conseil de son grand frère. Ne pas se précipiter, anticiper autant que possible et ne pas trop avoir confiance en son vélo. La relation qui les lie tous les deux est unique au monde. Seuls les frères peuvent nouer de tels liens, dans la joie et dans l'épreuve. Alors qu'il s'apprête à reprendre le contrôle de son pédalier au bout de la descente, le jeune homme voit soudainement apparaître une voiture dans son champ de vision. Une Fiat noire n'a pas marqué l'arrêt. Et voilà qu'elle déboule, là, devant lui. Le petit frangin Bartali ne peut rien faire. Oh, il tente bien d'éviter le véhicule, de déboîter, mais la voiture est déjà là. Percutée de plein fouet, le cycliste voit son épaule, son bassin et plusieurs côtes être fracturées sous le choc. Il doit être opéré, mais ses jours ne sont pas en danger. En apprenant la nouvelle, tout le clan familial se rend à l'hôpital. Ils font face à un chirurgien qui les laisse pantois. Le médecin leur annonce que l'opération ne s'est pas bien passée. Le jeune homme semble ne pas avoir bien supporté l'anesthésie. Plus tard, sur son lit de mort, le chirurgien avouera avoir commis une faute. Plongé dans le coma, l'accidenté ne se réveillera pas. Giulio meurt 2 jours après sa chute, à l'aube de ses 20 ans. Son aîné est au seuil de la gloire, auréolé de son premier Giro. Au décès de son frère, pourtant, sa réaction est aussi vive que définitive. Le cyclisme, c'est terminé, fin de carrière. Il faudra pourtant de longs mois au champion pour changer d'avis. Une seule chose a pu le remettre dans le chemin, sa foi. Au contact de la mort, Gino le Pieux est né. Il va devenir un symbole. Avec sa victoire au Giro 1936, Gino devient l'un des meilleurs coureurs du moment. Son nom, jusqu'alors méconnu du grand public, traverse les frontières. La mort de son petit frère marque un net coup d'arrêt dans cette progression. Mais sa foi lui permet de se remettre en selle. Dieu, Gino ne l'a pas trouvé à côté du lit de mort de son frangin. Enfant, il était déjà affilié à ce qu'on appelle l'Action catholique, une institution de prêche et de diffusion du catholicisme très importante en Italie. C'est surtout sa mère qui lui apprend à vivre selon les rudiments de la religion catholique. Très tôt et de manière très profonde, le jeune garçon est transporté par ce qui touche au divin. Mais Gino le Pieux, son surnom dans le peloton, est né le jour de la mort de son frère. Depuis, le mysticisme de Gino n'a d'égal que sa spiritualité. Porté par ses idéaux, le clan Bartali se place en opposition au fascisme ambiant, alors que la figure de Mussolini s'impose dans l'opinion dès le début des années 20. Cette présence mussolinienne s'accentue au point de devenir omniprésente et omnipotente bien avant le début de la carrière du cycliste. En 1937, Gino est le seul membre de son écurie à ne pas être adhérent au parti fasciste, alors que les autres s'échangent des saluts romains, lui ne tend jamais le bras. Sa seule allégeance, elle est pour Dieu, auquel il croit. Sa saison 37 commence mal. Une bronchopneumonie manque de lui coûter sa participation au Giro. À court de forme, il peut néanmoins prendre le départ et gagne une nouvelle fois, avec plus de 8 minutes d'avance sur son plus proche poursuivant. Pourtant, ses médecins sont clairs. Il ne doit pas forcer, ou la maladie pourrait bien reprendre le dessus. Les organisateurs du Tour de France viennent de lui transmettre une invitation officielle pour la toute première fois. Mais le coureur compte bien suivre l'avis des spécialistes et se réserver pour la suite de sa saison. Ce qui n'est pas du tout au goût du régime fasciste. Gino est déjà l'une des plus grandes chances italiennes de victoire finale. Chaque coureur professionnel national se doit de représenter au mieux Mussolini, qui ne manquera pas de tirer les marrons du feu pour sa propagande si l'un de ses champions remporte la grande boucle. Le clan Bartali est révolté. Les fascistes peuvent-ils seulement forcer Gino à participer contre son gré ? Oh, ils le peuvent, oui. Le Popolo d'Italia, journal du régime fondé par le Duce lui-même, organise une énorme campagne de presse mensongère contre le cycliste. On l'accuse d'être un traître à la patrie. Et pire encore, le président du Comité olympique national italien, proche des hautes sphères fascistes, menace directement le coureur. Dans un télégramme privé, il se montre très clair. Où Gino participe, où il sera poursuivi par la justice pour insubordination. Et pire, exclu du circuit pro, le jeune homme n'a pas le choix. Il doit y aller. Sur les routes, les Français qui le découvrent sont subjugués. Par son mode de vie déjà, l'Italien se lève chaque jour aux aurores pour prier ou aller à la messe. Vainqueur d'étape à Grenoble dans les Alpes, il démontre tout son talent en épreuve de montagne et dès sa première participation, endosse le maillot jaune. Ça ne va pas durer. Les jours suivants, de grandes difficultés techniques viennent entacher son parcours. Gino doit se résoudre à l'abandon alors que le peloton se trouve du côté de Marseille. C'est pas son choix, non. Déjà s'immisce derrière lui l'ombre omniprésente de Mussolini qui préfère l'abandon à la honte de la défaite. Pourtant, Gino laisse partout en France des impressions on ne peut plus positives. Assurément. Il fait figure de favori pour l'édition suivante. L'Italien a écouté les fascistes en espérant être plus tranquille. Eh bien, il se met le doigt dans l'œil. Au début de la saison 1938, alors que se profile sa spécialité, le Giro, il est rattrapé au collet. Non, en cette année, il ne pourra pas défendre son double titre. Le Comité national olympique a pris sa décision. Gino ne pourra pas gagner les deux grands tours. Il n'en a pas les capacités. Dans un contexte politique de plus en plus dégradé, l'Italie a besoin de positiver son image et donc de remporter le Tour de France. Face à la peur de représailles, le sportif s'incline une nouvelle fois, la rage au cœur. Frais comme un gardon au départ du Tour, Gino va écraser la concurrence. Il remporte plusieurs étapes, se montre impitoyable en montagne et affiche une avance de plus de 18 minutes au général sur son plus proche poursuivant. L'athlète fait si forte impression qu'à la fin d'une épreuve qu'il remporte, le président de la fédération italienne se précipite sur lui, en hurlant à la foule « Ne le touchez pas, c'est un dieu !» Rien que ça. Auréolé de sa première victoire sur la grande boucle, Bartali se présente au championnat du monde aux Pays-Bas en septembre. Il est l'un des grands favoris. Et il compte bien empocher la timbale. C'est la seule ligne qui manque à son palmarès pour devenir l'un des meilleurs coureurs de son pays. Mais là encore, le pouvoir politique national le prend de court. Non. Non, Gino ne va pas devenir champion du monde, non. Au lieu de ça, il va pousser ses coéquipiers et s'effacer. Dégoûté, victime de plusieurs crevaisons pendant les championnats mondiaux, l'athlète abandonne l'épreuve. La presse fasciste le prend en grippe une nouvelle fois, considérant qu'il l'a fait exprès. Le monde, lui, est sur le point de basculer. Alors que la saison 1939 est le moment où émerge Fausto Coppi, une jeune étoile qui ne va pas tarder à devenir le plus grand rival de notre héros, tout bascule. Au mois de septembre, Hitler entre en Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Pour Gino, cela marque l'avènement de nombreuses et dangereuses aventures. Automne 1943, Florence. L'horreur est partout. Alors que la botte se croyait libérée du joug de son bourreau, Hitler l'a fait libérer. Depuis la République de Salo, régime dictatorial né des esprits fous, s'évertue à persécuter les Juifs, à les traquer et pire, à les envoyer dans les camps de la mort. Gino, lui, est retourné à la vie civile après la démobilisation de l'armée. Aujourd'hui, il retrouve l'église San Salvatore al Vescovo, dans laquelle il s'est marié il y a déjà 3 ans. Le temps de la joie est définitivement révolu. Le ciel est sombre, contaminé par une grisaille dévorante. Derrière l'autel, le cardinal Elia Dalla Costa prie, tout en se rongeant les ongles d'inquiétude. Lorsque Bartali passe le pas de la porte, l'homme sursaute. Un tel comportement ne lui ressemble pas. Le cycliste comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Sans un mot, son ami le rejoint et l'invite à s'asseoir sur un banc. Il ne quitte pas des yeux la croix qui semble floutée par la noirceur qui se distille partout. Ouvrir la bouche semble être une terrible épreuve pour le cardinal. Il va mettre longtemps avant d'exposer au cycliste son plan. Il faut dire que la prise de risque est maximale. Gino, s'il accepte, pourrait bien y laisser la vie. Gino, nous allons devoir agir. La rafle à Rome n'est qu'une première étape. Des dizaines de milliers de personnes sont en danger. T'es prêt à tout risquer, Gino ? Le sportif acquiesce. Oh, il n'a pas besoin de réfléchir plus. Depuis trop longtemps, il bouillonne face aux injustices et aux abus de pouvoir de ce régime fasciste dont il n'a jamais été le partisan. Sa mission ? Intégrer un réseau clandestin d'aide aux Juifs. Gino devra profiter de son statut de coureur professionnel pour transporter des messages, des informations confidentielles ou des faux papiers vers des monastères et des couvents de Toscane. Depuis un certain temps déjà, les sœurs et les frères de certaines institutions cachent des Juifs pour les préserver de l'oppression en cours. Gino, si t'acceptes, tu deviendras le facteur de la liberté. Et la star accepte. Il ne sait pas encore que de nombreux périls vont se dresser sur sa route. L'engagement de la star pour la cause des persécutés est né de plusieurs événements. Profondément antifasciste, Gino vit en horreur les lois raciales de 1938 qui font basculer l'Italie mussolinienne dans un antisémitisme d'État. Déjà, l'allié hitlérien impose sa vue racialiste sur le pays du Duce. Pire encore, les événements de 1943 accélèrent la volonté d'un homme d'exterminer les Juifs nationaux. Et puis, sa relation avec le cardinal Elia Dalla Costa lui permet d'entrer dans l'action. L'homme d'église, proche des hautes sphères du catholicisme, n'hésite pas à faire valoir son influence pour aider celles et ceux qui sont dans le viseur de Mussolini. Le 10 juin 1940, alors que le conflit fait déjà rage, l'Italie, jusqu'alors neutre, entre en guerre contre la France et l'Empire britannique. Affecté au 56e bataillon territorial en octobre 1940, Gino est ensuite affecté au 60e bataillon d'infanterie territoriale. Il obtient de devenir messager militaire à bicyclette. Pour lui, le coup est double. Il est loin du front. Et surtout, il peut s'entraîner. Son engagement lui donne le droit de participer aux quelques courses professionnelles organisées dans la botte durant la guerre. Elles sont peu nombreuses, et malgré une concurrence de plus en plus féroce, notamment celle de copie, Gino remporte deux courses en 1941. En 1942 et 1943, les épreuves se raréfient. Le sportif connaît plusieurs mutations, jusqu'à se retrouver à Florence, au sein de la police de la route, qu'il quitte rapidement. En juillet 1943, alors que l'opération Barbarossa sur le sol russe a considérablement fragilisé les forces de l'Axe, les troupes anglo-américaines débarquent en Sicile. Coup de théâtre. Mussolini est destitué par le roi. Un armistice est signé début septembre. Emprisonné, le Duce semble avoir été mis hors d'état de nuire. Les soldats sont renvoyés à la vie civile et Gino retrouve la liberté. Les affres du conflit s'éloignent. Pensée fugace d'un cauchemar qu'on aurait envie d'oublier au réveil. Pourtant, la botte replonge rapidement dans l'horreur. En réaction à l'armistice signé entre l'Italie et les Alliés, Hitler déchaîne sa colère et ses troupes font libérer Benito Mussolini. Avec ses partisans, il reprend le contrôle d'une partie du pays. La République de Salo est instituée à la fin du mois de septembre 1943 et la terreur se déchaîne très vite. Les Juifs, immédiatement, y sont déclarés ennemis de l'État. La fange la plus antisémite qui soit va s'exprimer sans mesure. La politique dictatoriale va entraîner la mort de bien des innocents. Une rafle dans le ghetto de Rome entraîne le départ de plus de 1000 Juifs vers Auschwitz. Ils seront une poignée à en réchapper. Hélas, ils ne vont pas être les seuls à connaître le même sort. En très peu de temps, Mussolini lâche ses sbires contre les Juifs, les Tziganes, les personnes handicapées. Plusieurs milliers de personnes prendront le chemin des camps sous son impulsion. Retourné à la vie civile, Gino refuse de rester les bras croisés. Via le cardinal de Florence, il entre dans le réseau clandestin de la Delacem, une structure d'aide lancée par les catholiques à destination des Juifs. Dès lors, il prend tous les risques. Son statut de célébrité devrait lui permettre d'éviter bien des ennuis lors des contrôles effectués par les nazis ou les troupes de Mussolini. Et puis, un cycliste pro qui roule à vélo, ben, ça n'a rien de suspect. Gino va se lancer dans une course folle, durant laquelle il effectue, à raison d'une fois par semaine, des allers-retours entre Gênes et Florence, et ce, pendant plus de 9 mois. La distance séparant les deux cités historiques du centre de l'Italie étant de 300 kilomètres. Je vous laisse calculer l'ampleur de la tâche effectuée par le coureur. Bon allez, je vous aide un peu. On parle de près de 23 000 kilomètres effectués. Du pur délire. Ouais, mais voilà, tout ne va pas toujours se passer comme prévu. Alors que l'étau allié se resserre sur les fascistes, une lettre du pape adressée à Gino est interceptée. Le souverain pontife l'y remercie de son action. Tiens, mais de quoi veut-il bien parler, le souverain pontife Le sportif est convoqué par la milice à Florence. Son interrogatoire est brutal, mais l'homme est un dur à cuire. Il ne bronche pas. Rapidement, de jeunes miliciens, admirateurs du coureur, intercèdent en sa faveur. Bartali est libre, mais il s'en est fallu de peu. Ses missions pour la résistance sont nombreuses. Et il couvre de très grandes distances, de Florence à Assise, Gênes ou même Rome. Chaque fois, il n'hésite jamais à user de sa célébrité et de son talent pour faire avancer la cause. Il va même cacher une famille de Juifs dans l'une des résidences florentines de sa famille. L'armée américaine avance et le spectre du fascisme recule de manière définitive. Bientôt, les escapades de Gino ne sont plus nécessaires. Alors, il les arrête. À la libération, il décide de reprendre le cours de sa carrière sportive. Il n'est plus seul sur le devant de la scène. Fausto Coppi est en pleine ascension. Et aussi fou que cela puisse paraître, plus personne ne va entendre parler de l'héroïsme de Gino durant la guerre. Et pour cause, la star n'en a parlé à personne. En reprenant le chemin des entraînements et des courses internationales après la libération, Gino a changé de statut. À 31 ans, il n'est plus l'espoir du peloton, mais l'un de ses vétérans les plus expérimentés. Sa technique est différente. Son impulsivité a laissé la place à une capacité d'anticipation accrue. Face à lui s'est dressé Fausto Coppi. C'est le Genot qui a gagné le dernier Giro organisé avant la guerre et qui, surtout, s'oppose en tout point au vieillissant champion. Rebelle, très éloigné des considérations religieuses, Coppi est un esprit vif et capable de tout pour gagner. Les tensions entre les deux athlètes vont aller croissant et s'imposer sur la piste. Lors du Giro 1946, le premier après l'enfer, le vieux lion s'impose devant Coppi pour 47 petites secondes. L'écart est si serré que l'Italie est tenue en haleine jusqu'au bout. Le pays qui se relève de l'horreur va utiliser cette rivalité pour se reconstruire. Bientôt, la toute nouvelle République est divisée au sujet de ses champions. Si l'un est pour Fausto, l'autre est un admirateur de Gino. Les grandes courses au niveau national, du Milan-San Remo au Tour de Lombardie, deviennent de véritables champs de bataille. La lutte intense provoque des duels d'anthologie. Les victoires succèdent aux défaites et bientôt, les deux coureurs ne peuvent plus se voir. Alors en 1948, lorsque l'équipe d'Italie prépare le Tour de France autour de la figure de Bartali, Coppi refuse de jouer au lieutenant et refuse de s'aligner au départ de la grande boucle. Gino va devoir se débrouiller seul s'il veut renouer avec la victoire une décennie après sa première couronne. L'exploit semble hors de portée, même pour lui. Après un peu plus de 10 jours de course, le lion italien accuse plus de 20 minutes de retard au général malgré des victoires d'étape. Et pourtant, alors qu'en Italie la situation politique est intenable à la suite d'un attentat mené contre le leader communiste, Gino va s'employer à faire la fierté des siens. Dans les montagnes du Tour, il se transforme littéralement. En 9 petites étapes, il remonte les 21 minutes qui le séparent du leader Luison Bobet. Gino s'impose au finish dans ce qui reste l'une des plus marquantes éditions de la Grande Boucle. Il a repris plus de 30 minutes au classement en 3 jours. Dingue. Ce Tour 1948 reste le plus beau et le dernier exploit de sa carrière. Bartali sait qu'il est sur la pente descendante. En 1955, il prend sa retraite après quelques derniers coups d'éclat, notamment un titre de champion d'Italie, glané à l'âge de 38 ans. Le bilan, 184 victoires. Les langues vont mettre du temps à se délier autour de son passé glorieux durant la guerre. À la fin des années 70, certains prêtres commencent à évoquer ses trajets clandestins. Mais l'ancien champion se mure dans le silence. Oh, « Laissez-moi tranquille avec ça. Occupez-vous de vos affaires. Ah, » Gino est clair. Il veut pas en parler. Le taiseux conquérant est emporté à l'âge de 85 ans, en mai 2000, entouré de ses proches. Le monde, lui, ne connaît encore rien de son implication passée dans les réseaux de résistance. En 2006, Alberati publie une première enquête autour du cardinal Della Costa et de Gino. Ce travail permet bien des reconnaissances, dont la plus symbolique d'entre toutes, le titre de juste parmi les nations, décerné à Gino Bartali par Yad Vashem, à titre posthume, en 2013. Della Costa, son grand ami, est aussi reconnu à ce titre. Alberto Toscano, en 2018, a publié sur les actions de Gino une enquête de référence qui retrace son parcours. Depuis, le mythe du facteur de la liberté est vif et continue de beaucoup faire parler. Mais voilà, si l'histoire est une science exacte, la mémoire ne l'est pas toujours. En 2021, les Pivato, des historiens reconnus dans la botte, jettent un pavé dans la mare en publiant un livre à l'effigie du cycliste, « L'obsession de la mémoire ». La thèse qu'ils y développent fait planer un terrible doute autour de Bartali. Tout ce qu'on raconte autour de ses actions durant la guerre serait faux. On aurait fabriqué de toutes pièces cette figure héroïque pour rassembler un pays déchiré dans sa chair. Pour les historiens, le manque de documents d'archives mentionnant le coureur, les ouvrages romancés sur son action, tout cela appelle au doute. Yad Vashem n'a pas tardé à réagir en soutenant la mémoire de l'Italien. Il faut dire que les Pivato affirment que Gino, au moment où se seraient déroulés les voyages entre les monastères, aurait été mobilisé dans les rangs de la milice. Impossible pour lui donc de relier Assise à Florence et Gênes à Rome en étant caserné. Le doute existe, certes, mais rien n'est encore arrêté sur la question. Comme souvent, il faudra du temps et des preuves solides pour que l'histoire puisse faire son œuvre. Dans le cercle familial, au moment d'évoquer son silence, le cycliste aurait eu ces quelques mots. Ils sont rapportés par son fils lors de sa nomination en tant que juste parmi les nations. Je veux qu'on se souvienne de moi pour mes performances sportives, pas comme un héros de guerre. Les héros, ce sont les autres, ceux qui ont souffert dans leur chair. Mythe, légende, réalité. La personnalité unique de Gino le Pieux n'a pas fini de faire parler d'elle. Les chercheurs pourront peut-être un jour percer le mystère d'un des plus grands champions italiens de tous les temps. Quoi qu'on en dise, il aura marqué de son empreinte bienveillante et spirituelle le monde entier. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.